RFI, il est 20h30 à Paris et 18h30 à Bamako.
Afrique Soir.
Et c'est avec vous, Zéphirin Kouadio. Bonsoir.
Bonsoir, Anne, et merci beaucoup, beaucoup. Bon vent du côté de France 24.
Nous vous retrouverons
évidemment avec plaisir. Nous vous suivrons quotidiennement. Merci, Anne. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, retour sur la double attaque djihadiste de mardi à Bamako, une école de gendarmerie et une base militaire visée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Aucun bilan officiel à cette heure. Les autorités de transition reconnaissent quelques pertes, mais plusieurs sources évoquent un bilan très lourd. Et puis des tensions dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 11 personnes ont été tuées sur le territoire de Djougou, dont des attaques attribuées à des groupes armés. Des violences qui s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Emma et Lendu. Ce matin, l'armée congolaise et la MONUSCO sont intervenues pour prévenir une de ces attaques contre des sites de déplacés. Enfin, un autre dossier consacré aujourd'hui à la lettre ouverte d'Ali Bongo au Gabonais. Une demande d'indulgence agrémentée d'un soupçon d'autocritique. Un peu plus d'un an après avoir été renversé par l'armée, l'ancien président confirme ne plus avoir d'ambition politique, mais demande surtout la libération de son épouse et de leur fils. Oui, au Mali, toujours aucun bilan officiel de la double attaque djihadiste qui a frappé mardi la capitale. Une école de gendarmerie, je vous le disais, et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été visées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe lié à Al-Qaïda. Les autorités, je vous le disais également, de transition reconnaissent, je cite, « quelques pertes en vie humaine ». Une cérémonie d'obsèques devait avoir lieu en fin d'après-midi à Bamako, dans un camp de la gendarmerie. Aucune image, aucune information à ce stade, mais des sources sécuritaires et civiles maliennes parlent de plus de 70 morts. David Baché.
Plus de 70 morts, c'est ce qui a pu être recoupé auprès d'un nombre important de sources sécuritaires et civiles maliennes. Certaines de ces sources avancent même un bilan encore plus élevé. Parmi les plus de 200 blessés également rapportés, certains ont ensuite succombé à leurs blessures. Sur ces plus de 70 morts, une vingtaine a perdu la vie dans l'attaque de la base militaire située à l'aéroport de Bamako. L'essentiel des victimes a été tué à l'école de la gendarmerie du quartier de Faladier. Pas de détails précis dans ces chiffres sur la part de gendarmes, de soldats et de civils parmi les victimes. Les djihadistes ont visé mardi des cibles militaires, ce qui n'avait pas été le cas en 2015, lors des attentats de la Terrasse et du Radisson. Dans ses messages de propagande, le JNIM lié à Al-Qaïda avait revendiqué mardi une centaine de personnes tuées ou blessées avec de lourdes pertes infligées aux mercenaires de Wagner. Les dirigeants maliens de transition refusent depuis longtemps toute transparence sur les victimes des groupes armés terroristes. Officiellement, pour ne pas faire le jeu de l'ennemi et démoraliser les troupes, les critiques du régime estiment qu'il s'agit plutôt de cacher l'état réel de la situation sécuritaire dans le pays.
Récit signé David Baché. A noté par ailleurs la réaction de la France à ces attaques djihadistes qui ont ensanglanté Bamako mardi. Dans un communiqué publié jeudi après-midi, l'ambassade de France au Mali présente ses condoléances au gouvernement malien, salue la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort, s'associe à la peine des familles des victimes elles-mêmes, et formule enfin des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Situation tendue dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tension après plusieurs affrontements intercommunautaires en début de semaine. Au moins 11 personnes ont été tuées sur le territoire de Djougou, dont des attaques attribuées à des groupes armés. Des violences qui s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Emma et Lendu. Ce matin, l'armée congolaise et les soldats de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, sont d'ailleurs intervenus pour prévenir une de ces attaques contre des sites de déplacés. Le récit d'Alexandra Bonjon.
Selon la MONUSCO, les casques bleus ont été avertis ce matin, peu après 8 heures, d'une attaque sur le village de Nglé, situé à 1 km de deux sites de déplacés. Avec des éléments de l'armée congolaise, les casques bleus sont intervenus et après des échanges de tirs, ont réussi à repousser les assaillants. Des miliciens de la CODECO, selon la porte-parole de la mission onusienne, ils étaient nombreux, ajoute-t-elle sans plus de précision, l'un des assaillants a été capturé. Selon un acteur de la société civile, l'attaque sur le village a fait au moins 6 morts. Depuis, les deux camps de déplacés à proximité se sont vidés. Plusieurs milliers de civils ont trouvé refuge à une quinzaine de kilomètres de là, à Boulé, où se trouve une base militaire des Nations Unies. Malgré la signature d'un accord il y a quelques mois, le cycle de violence semble avoir repris ces derniers jours entre les milices communautaires Emma et Lendu.
Récit signé Alexandra Brangeon. Et puis c'est dans ce contexte qu'on apprend que le nombre de déplacés de force ou de réfugiés a doublé en 5 ans en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur du bureau régional du HCR lors d'une conférence de presse à Abidjan, en Côte d'Ivoire, face à des situations où les populations ne peuvent pas retourner chez elles, parfois pendant plusieurs décennies. L'agence onusienne souligne l'importance d'intégrer ces réfugiés dans les programmes de développement des pays d'accueil. Au Cameroun, un mort et 6 blessés ce jeudi matin à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone, après l'explosion d'une bombe au marché de Nkouen, annonce faite aujourd'hui par le préfet de la ville dans un communiqué. La préfecture invite les populations à rester calmes. Elle indique que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour traquer les auteurs de cet attentat. Et puis au Sénégal, le chargé de sécurité du parti de l'ex-président Macky Sall, Jérôme Bandiaki, un homme clé de la gestion de la sécurité sous Macky Sall, a été interpellé la nuit dernière et placé en garde à vue à la division des investigations criminelles pour enquête. À Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
L'arrestation a eu lieu vers 22h hier soir au domicile de Jérôme Bandiaki en centre-ville, selon plusieurs sources. Le chargé de la sécurité de l'Alliance pour la République, le parti de l'ex-président Macky Sall, a ensuite été emmené dans les locaux de la division des investigations criminelles pour enquête. C'est là qu'il est toujours aujourd'hui pour être interrogé, affirme un porte-parole de la police. Pour l'heure, aucun élément n'a filtré sur la raison de cette arrestation. Jérôme Bandiaki a été tour à tour garde du corps de Macky Sall quand ce dernier était encore dans l'opposition, puis président, tout comme de différents ministres et personnalités du parti de l'ex-président, l'APR. Une figure centrale dans la gestion de la sécurité sous Macky Sall. Son nom aurait également été cité à plusieurs reprises dans les témoignages de victimes de la répression des manifestations de l'opposition entre mars 2021 et février 2024. La presse cite aussi une affaire jamais élucidée depuis novembre 2021, celle de la disparition de 2 sous-officiers de l'armée sénégalaise, Didier Badji et Fulbert Sambou, et pour laquelle Jérôme Bandiaki pourrait être interrogé, mais aucune confirmation officielle pour l'heure. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et dans l'actualité également, une bonne nouvelle sur le front du combat contre le Mpox. La première campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique a effectivement débuté mardi au Rwanda. Une vaste campagne dans 7 districts où vivent des populations à haut risque voisines du Congo. Et cela grâce aux 1000 doses de vaccins reçues du Nigeria. Le docteur Jean Kaseya, président de Africa CDC, agence de l'Union africaine pour la santé, s'est félicité de cette réussite ce jeudi, tout en rappelant que le continent a encore besoin de plusieurs milliers de doses pour lutter contre la maladie. Écoutez.
Oui, nous avons une bonne nouvelle. La plupart de nos communautés et des journalistes nous demandaient « Quand allez-vous enfin commencer la campagne de vaccination ?» Eh bien, nous avons commencé au Rwanda. On m'a dit qu'ils ont commencé il y a 2 jours et qu'ils ont déjà vacciné environ 500 personnes à l'aide des 1000 doses qu'ils ont obtenues. Pour autant, ils ont besoin de beaucoup plus que les 10 000 doses qu'ils ont demandées. Lorsque les pays ont envoyé leur planning de campagne de vaccination, ils n'ont peut-être pas réalisé jusqu'où ils pouvaient aller, ni la forte demande de la population pour ce vaccin. Notre équipe travaille avec les pays pour mettre à jour le plan de vaccination. Comme vous le savez, nous parlons de 10 millions de doses et nous nous engageons à faire en sorte que l'Afrique reçoive ces 10 millions de doses au minimum.
Un propos recueilli par Willy Diallo. Et place à notre dossier consacré aujourd'hui à la lettre ouverte d'Ali Bongo au Gabonais. Une demande d'indulgence agrémentée d'un soupçon d'autocritique. Un peu plus d'un an après avoir été renversé par l'armée, toujours bloqué chez lui, même s'il n'est ni poursuivi ni formellement placé en résidence surveillée, l'ex-président a confirmé ne plus avoir d'ambition politique, mais demande surtout la libération de son épouse Sylvia et de leur fils Nordine. Alors pourquoi cette lettre et pourquoi maintenant ? Élément de réponse avec François Mazet.
Cette lettre a été écrite en son âme et conscience. Monsieur Ali Bongo estime qu'il est le seul responsable de tout ce qui s'est passé.
S'il a remis sa lettre en main propre à maître Gisèle Eyué-Bekalé, Ali Bongo n'a pas confié à l'avocate de sa famille les insuffisances de ses années de pouvoir qu'il reconnaît à l'écrit.
Non, il m'a pas parlé de ses erreurs. Pas du tout, du tout.
Trop de Gabonais souffrent encore et cela reste mon plus grand regret, dit celui qui assure avoir cru longtemps pouvoir changer un système qui s'est finalement retourné contre une famille. L'ex-président prend acte du processus de transition position sans émettre d'opinion. Je réaffirme mon renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia et Noureddine, précise-t-il, car cette lettre est surtout un plaidoyer pour son épouse et son fils, toujours dans le viseur de la justice.
Ali Bongo pense qu'au bout de un an de détention de son fils et de sa femme, qu'il est peut-être temps qu'il soit peut-être assigné à résidence, parce que Sylvia, à 61 ans, n'a pas rencontré de médecin, et son fils également. Puisqu'il est le seul responsable de ce qui s'est passé, il n'y a pas de raison que son fils et sa femme soient toujours détenus. Être mis en liberté provisoire n'empêche pas que le juge continue son instruction. La liberté provisoire n'est pas un jugement.
Ali Bongo demande aux Gabonais de ne pas céder à la vengeance. Selon plusieurs sources, il a jusque-là choisi de ne pas quitter le pays tant que son épouse et son fils demeurent en détention.
En précision de François Mazet avec les propos recueillis par Yves-Laurent Goma à Libreville. Alors justement, comment cette lettre est-elle perçue à Libreville au moment où la transition est en pleine phase de rédaction de la Constitution qui gouvernera l'après-Bongo? Nicolas Sueur a demandé à la mi-journée l'avis de Marc Ona Essangui, figure de la société civile locale, désormais vice-président du Sénat de transition. Écoutez.
Je constate que c'est la lettre d'un père de famille adressée aux autorités pour faire en sorte que son épouse et son enfant soient libres. Je comprends la douleur de M. Ali Bongo. C'est la même douleur que les familles gabonaises ont vécue pendant 14 ans. Ali Bongo a été à l'origine des malheurs qui ont frappé beaucoup de familles. La dernière douleur en date, c'est celle des familles après l'attaque du QG de Jinping en 2016. Et je pense qu'aujourd'hui, il comprend aisément que la vie ne vaut pas tout ce qu'on est en train de faire subir aux peuples africains et surtout aux peuples gabonais. Il faut être humain. Humain pour savoir que ce que les autres vivent, je peux le vivre un jour.
Il y a tout de même dans cette lettre une ébauche de mea culpa. Je suis conscient des insuffisances de ma présidence dont j'assume seul la responsabilité. Y êtes-vous sensible?
Je ne peux pas être sensible à ces mots parce que ce sont des mots d'une personne qui n'a plus de pouvoir. Mais quand il avait le pouvoir, nous, au niveau de la société civile, nous avons souhaité organiser à plusieurs reprises des dialogues pour mettre fin à tous ces malheurs, à toutes ces injustices, à toute cette malgouvernance que Ali Bongo et sa famille ont fait vivre aux Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les militaires sont en train de tout reconstruire. Je dis bien tout reconstruire parce que c'est un délabrement total que Ali Bongo et sa famille ont laissé au peuple gabonais. Il faut tout refaire.
Il rappelle aussi qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Pourquoi lui ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires?
Il n'est pas libre de ses mouvements, c'est lui qui le dit. À plusieurs reprises, les autorités militaires ont souhaité qu'Ali Bongo aille poursuivre ses soins médicaux à l'international. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il souhaite absolument que son fils et son épouse soient libres. Sauf que son fils et son épouse sont en détention pour des délits et non pas pour avoir été l'épouse ou le fils d'Ali Bongo. Alors, il n'est pas libre tout simplement parce qu'il ne veut pas être libre.
Mais il ne peut pas sortir de sa résidence, il ne peut pas recevoir qui il veut.
Il peut recevoir qui il veut, la preuve. À chaque délégation internationale, Ali Bongo est toujours visité par cette délégation. La dernière délégation en date qui est passée à Libreville, c'est celle de l'Union africaine. Et Ali Bongo les a reçus.
Voilà, Marc Ona Essangui au micro de Nicolas Sueur. Et puis cette information de dernière minute, Claude Piville, l'ancien colonel guinéen condamné le 31 juillet dernier à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 a été extradé en Guinée. Mercredi, on apprenait son arrestation au Libéria après 10 mois de cavale. Ce jeudi, le procureur militaire a d'abord affirmé qu'il avait été ramené à la maison centrale de Conakry pour purger sa peine conformément à la loi. Cependant, ce soir, le ministre de la Justice indique à Jeune Afrique qu'il se trouve dans la prison de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry, ce que confirme à RFI Maître Dabo, son avocat. Au Mozambique, le décès du roi de la Marimbeta, Dindji, est mort hier à l'âge de 97 ans. Selon sa famille, le musicien est mort de maladie. La Marimbeta est une musique venue des régions rurales du sud du Mozambique. Interdit sous la colonisation portugaise car trop contestataire, ce genre a été promu musique d'État par le régime de Samora Machel à l'indépendance. Retour sur le parcours d'une icône avec Gaël Alexis.
Agriculteur, pasteur, mineur, Dylan Gingy a eu de multiples vies avant de devenir le roi de la Marabenta. Sa première guitare, il la fabrique avec un bidon d'huile vide et trois cordes. Né à Maracuene, sur la côte au nord de Maputo, il part dans sa jeunesse travailler dans les mines d'Afrique du Sud. C'est là qu'il découvre les rythmes fulgurants des grandes villes sud-africaines. L'origine du mot Marabenta viendrait du verbe portugais rebentar, casser, comme les cordes des guitares qui explosaient sous les doigts des Marabentés rouges. Dylan Gingy, lui, l'associe à la danse Marabenta qui emporte tout.
En 2002, quand on est allé au Portugal, il y avait une grande fête. Quand on est entré dans le parc et qu'on a commencé à chanter, tout le monde s'est levé. Le parc était plein à craquer. Et ça m'a rendu très fier de voir tous ces gens danser sur la Marabenta. Ce jour-là, nous étions des Mozambicains admirés au Portugal. Ils ont admiré la beauté de notre musique et de notre danse spectaculaire, la Marabenta.
Ce n'est qu'à 75 ans que Dylan Gingy sort son premier album. Dans les années 2000, il rejoint le groupe intergénérationnel Mabulu et part en tournée dans toute l'Europe. À ses 95 ans, l'artiste avait promis 30 nouvelles chansons. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Enfin, dans l'actualité sportive, suite du Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la cinquième étape a mené les coureurs de Thiébissou à Sakassou sur un parcours de 110 km. Et le Cameroun occupe les trois marches du podium au classement général. Kouere Rodrigue Nounawe a remporté l'étape et s'est emparé du maillot jaune. Maillot jaune qui était jusqu'ici sur les épaules de son coéquipier Kamsong Abosolo. Et c'est Abosolo qui a mené la danse pendant longtemps à la tête d'une échappée de 5 coureurs. Puis à près de 15 km de l'arrivée, ses compatriotes Kouere et Chauffort ont placé une attaque qui ne sera jamais rattrapée à la clé. Ce sont donc ces trois Camerounais qui occupent les trois premières places au classement général, stratégie payante mise en place par Martini Antega, coach de SNH Cameroun.
C'est simple, il fallait essayer d'augmenter les cas aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire qui va gagner le Tour de Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'expérimenter des stratégies, d'abord pour notre tour en octobre et ici. Et c'est pour ça que quand Abosolo s'est retrouvé devant avec le groupe, ils ont roulé. Bon, bien sûr, les autres de l'échappée ne voulaient pas relayer. J'ai dit à Kouere de placer un contre, ils sont revenus sur eux. Bon, tout le monde était cramé. Il a fallu aller chercher dans leur trip. Et il est parti avec son coéquipier en appui chauffeur pour augmenter les écarts. Bon, il est nouveau maillot jaune avec 1 minute 40. Donc la course est beaucoup plus neutralisée pour nous maintenant que 41 secondes. Et là maintenant, on va dérouler jusqu'à la fin. On aimerait aussi voir les Ivoiriens gagner une étape. J'espère qu'ils seront au rendez-vous dès demain.
Voilà, 18h48 à Sakassou. Et fin de notre série sur les objets historiques emblématiques des pays du continent, direction Djouba, la capitale du Soudan du Sud, que le pouvoir britannique de l'époque a implanté dans les années 20 sur les terres ancestrales des Bari, une ethnie autochtone. L'expansion de la ville depuis l'indépendance de 2011 a eu pour conséquence la disparition progressive du patrimoine historique de Djouba. Quelques sites Bari traditionnels ont cependant été préservés. Parmi eux, une pierre sacrée qui porte le nom de Pita. Florence Mieto est allée lui rendre visite avec des chefs traditionnels. Reportage.
C'est un endroit protégé des regards par un haut mur d'enceinte situé à l'arrière d'un grand supermarché de la capitale sud-soudanaise à proximité du Nil. Une porte cadenassée permet d'accéder à une sorte de terrain vague parsemé de rochers de toutes tailles, sombres et arrondis, assez typique à Djouba.
Regardez, nous nous approchons de la pierre. C'est là que se trouve notre ancêtre. La ville s'est construite autour de cette pierre.
Stanislaus Tombé, porte-parole du conseil de la communauté Bari.
Nous l'appelons Pita. Pita, c'est le nom que nous donnons à la quatrième fille qui naît dans une famille Bari.
Selon la croyance, Pita aurait été enterré ici, sous cette pierre, après avoir été sacrifié par les siens il y a très longtemps, comme l'explique Lino Loro Gore, chef traditionnel du quartier où nous nous trouvons, Djouba Nabari.
C'était une période de crise. Les villageois se sont réunis et se sont demandé comment allons-nous y mettre fin. Ils ont décidé que Pita devait être enterrée vivante. Pita était une jeune vierge. Elle a dû être sacrifiée pour que la crise s'arrête.
Le chef pense que cet épisode a pu avoir lieu du temps des premières invasions coloniales et des raids d'esclaves qui ont ravagé cette région à partir du XVIIIe siècle. Depuis, Pita s'est inscrite dans la mythologie Bari, dans les contes et l'histoire orale, où elle apparaît comme une figure protectrice dotée de pouvoirs surnaturels. C'est la défenseuse de la terre. À plus de 80 ans, Prudencio Legue Lodu continue d'assurer les rituels auprès de Pita. Il est le chef spirituel qui en a la charge. Il a hérité de ce rôle lorsqu'il avait 20 ans.
Il y a beaucoup de problèmes dans la communauté et dans le pays, donc les gens viennent me voir pour que je fasse des rituels afin que les choses s'améliorent.
Le chef spirituel s'inquiète puisque l'expansion de la ville a conduit son clan à être déplacé et repoussé toujours plus loin de ses terres au fil des ans.
Nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui se passe et le gouvernement ne fait rien pour préserver la mémoire. Pour ma part, je fais en sorte d'apprendre à mes enfants à maintenir notre patrimoine culturel.
L'attachement des autorités sud-soudanaises à Pita a été révélé lors des deux épisodes de conflit dans la capitale sud-soudanaise en 2013 et 2016. Des officiels très haut placés avaient en effet demandé au chef Prudencio Legue Lodu d'effectuer des rituels afin de demander l'aide de Pita et que la ville de Djouba soit protégée. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Il est 18h51, vous écoutez Radio France Internationale, 18h51 en temps universel. Et c'est l'heure de retrouver Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, pour la page culture. Bonsoir Hervé.
Bonsoir l'excellent Zéphirin Quadieu, bonsoir à tous.
Vous nous proposez ce soir, Hervé, une première escale en Côte d'Ivoire à la découverte de la nouvelle chanson de Rémi Adam, Mon Combat.
Oui, cela fait plusieurs jours maintenant que Rémi Adam tease son nouveau single à grand renfort de publication sur les réseaux sociaux. Et la chanson est toute fraîche puisqu'elle est sortie hier, le 18 septembre, en moins de 24 heures déjà. On peut dire que Rémi Adam est sur le point de gagner son combat pour conquérir le cœur de sa bien-aimée. Vous l'avez compris, c'est une chanson pleine de sentiments romantiques et c'est déjà sur RFI.
Mon combat, oh, c'est toi mon combat, yeah, yeah. Rémi Adam. J'aime ça ma vie. T'es mon sucre, t'es mon miel. Ton caramel, ma banane, tout ce quand j'ai faim. Oh, ah, tu me plais, give me l'envololo. Plenty money, dollar for you, dodo. Bébé, sur nous, beaucoup ont parié. Ils ont tout misé, tout ça pour nous voir tomber.
Et après la Côte d'Ivoire de Rémi Adam, en direction le Kenya du chanteur Charisma. Charisma qui propose la chanson Oui, vous, nouvel extrait de son album The Motions.
Vous avez raison Zéphirin, cet album a tout juste un mois aujourd'hui. The Motion est sorti le 3 août, pour être précis, avec pas moins de 9 titres. Fidèle Chama pour l'état civil, plus connu sous le nom de Charisma, alias Luya Hit, est en train de faire des étincelles. Est en train de faire des étincelles à Nairobi et dans toute la région Afrique de l'Est, notamment avec le titre Oui vous. C'est mignon. Et son album tout entier vaut le détour. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à l'écouter sur toutes les plateformes de streaming.
Chafu asilo kidansu na wachanganya. Let's take it slow, turinge kitoko. Tusiogope choma foto. Oh no, oh no. Hadi washikwe na foto.
C'est le genre de chanson dont le refrain reste en tête, c'est efficace, ça je vous l'accorde Hervé. Allez, place à la traditionnelle séquence rétro du jeudi. Aujourd'hui, c'est avec Shakira et la légende Wyclef Jean que vous nous faites danser Hervé.
Oui, je vous ramène 19 ans en arrière, mon cher Zéphirin, à l'écoute de Hips Don't Lie, l'un des plus gros tubes de Shakira, qui a largement dépassé le milliard d'écoutes. Alors, il faut reconnaître que c'est aussi grâce à l'apport de Wyclef Jean, coproducteur des titres quand même. On se souvient qu'en 2006, pour la Coupe du Monde de football en Allemagne, les deux artistes avaient réenregistré la chanson, car elle avait été choisie comme l'hymne de la compétition. Ça vous rappelle les souvenirs, Zéphirin?
Shakira, Shakira, I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Picasa.
Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise sí. And keep on sí. Reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Eh bien, après cette séquence souvenir très rythmée, retour au présent. Et on referme cette chronique Hervé tout en douceur avec la jeune chanteuse gabonaise Emma.
Oui, Emma est toujours attendue au tournant lorsqu'elle sort un titre, d'autant plus que son premier album est de plus en plus demandé par son public. Avec elle, on est habitué aux petites douceurs et c'est encore le cas cette fois-ci avec le titre Décibel. Il est sorti hier, le 18 septembre. On reste à l'affût quand même d'une annonce imminente concernant la suite à donner à ce single. On écoute.
Plus de larmes, peu de peine, beaucoup d'amour, peu de haine, beaucoup de mal de je t'aime, mais au final, toi tu restes. Et mon bébé, ce sera toi, et personne d'autre que toi. Tu le resteras jamais, je le sens. J'aime quand t'es love, quand tu me rappelles. Tu me préfères au naturel.
Et c'est sur ce titre de la gabonaise Emma que s'achève votre chronique Hervé Mondina alias DJ Facemaker, une sélection déjà disponible sur RFI Musique.
Oui, plus exactement dans l'Afro Club et sur les réseaux sociaux de la Radio du Monde. Bonne soirée à vous, Zéphirin, et je vous rends le micro pour découvrir ce qui attend les auditeurs ce soir à l'antenne de RFI.
Eh bien, merci beaucoup Hervé Mandina, qu'on retrouve évidemment dès la semaine prochaine. Pour l'heure, il est 20h56 ici à Paris, à suivre ce soir sur RFI à 19h10, temps universel, la vie des Européens avec Accent de l'Europe. Ensuite, ce sera le grand reportage. Grand reportage consacré ce soir à un phénomène qui prend de l'ampleur en France dans le monde du football amateur. On parle de projet Mbappé. Et puis, 20h10, temps universel, Claudie Ciard nous présente le concert de Youssou N'Dour enregistré à Station Afrique sur l'île Saint-Denis. C'était le dimanche 4 août dans le cadre des Jeux de Paris 2024. On en écoute un extrait. Voilà la rediffusion de Youssou N'Dour en concert à Station Afrique RFI le 24 août dernier. C'est à 20h10, temps universel, 22h10, heure de Paris, dans aux couleurs tropicales. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur Radio France Internationale, avec à suivre dans un court instant un nouveau journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, les maux de dos. Identifier l'origine des douleurs et les prises en charge qui apportent du soulagement.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI parle de chef de la junte ou de président de la transition au Sahel ou au Gabon ? Quand employons-nous ces mots et pourquoi ? À quelle réalité politique cela correspond-il ? C'est une question récurrente que vous posez à la rédaction.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.
L'Afrique en jeu, sport en légende. Silver Henry Cissé.
Jesse Owens, le champion olympique de 1936, était un républicain conservateur, anti-black muslim et anti-black Panthers. Les aspects méconnus d'un des plus grands sportifs de tous les temps, mis en récit et analysé avec l'historien Yvan Gasto.
L'Afrique en jeu, sport en légende, avec Silver Henri Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Ce jeudi à 20h10 TU, RFI vous invite au concert.
Il y a concert et concert. Là, nous vous convions à celui de Youssou N'Dour, enregistré lors des JO de Paris à la Station Afrique. Nous vous faisons revivre ce grand moment de musique que nous offre la star sénégalaise.
Revivez le concert de Youssou N'Dour ce jeudi à 20h10 TU, en intégralité et avec ventilateur.
Soyez à l'écoute de RFI, vous êtes nos invités VIP.